Cause commune à Paris, 93.1 en FM, sur le bloc 9A du DAB+, et partout ailleurs, causecommune.fm et sur l'appli Cause commune.
Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Enjeux de la vie privée sur Internet et sur les appareils connectés. C'est le sujet principal de l'émission du jour, avec également au programme Educajou, des applications libres pour l'école, et aussi une chronique sur le thème Elles s'engagent en faveur du logiciel libre au sein de leur communauté. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposées par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Abel Lavani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Le site web de l'émission est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire de retour en nous posant toutes questions. Nous sommes mardi 1er octobre 2024. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Julie Chomard. Bonjour Julie.
Bonjour, bonjour à tous et belle émission.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer avec la chronique Pépite libre. Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April, nous présente une ressource sous licence libre. Texte, images, vidéos ou bases de données, sélectionnées pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Les auteurs et autrices de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sous les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. Bonjour Jean-Christophe, de quoi tu nous parleras aujourd'hui ?
Bonjour Isa, bonjour Julie, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous parler aujourd'hui d'Educajou. Educajou est une riche collection d'applications libres pour l'éducation. Ces logiciels de support à l'apprentissage s'adressent avant tout à l'école primaire, mais peuvent être utiles dans d'autres contextes. En mathématiques, TuxBlock aide à comprendre la numération. Fracatux met en évidence les fractions. Et multiples représentent les multiplications sous forme de quadrillage. On trouve aussi Syllabux pour la lecture des syllabes ou Flashmo pour l'entraînement de la mémoire orthographique. CS affiche tout simplement une page de cahier sur laquelle on peut écrire en police cursive. Il y en a d'autres que je vous invite à découvrir sur le site educajou.forge.apps.education.fr. Educajou est développé et maintenu sur la forge des communs numériques éducatifs par Arnaud Champollion, conseiller pédagogique numérique à Digne-les-Bains dans l'Académie d'Aix-Marseille. La forge des communs numériques éducatifs est un espace de partage pour créer des logiciels et des ressources libres. Elle repose sur le logiciel libre GitLab. Je vous renvoie à notre émission sur les forges logicielles à l'adresse libreavoue.org/160. Arnaud précise que la forge des communs numériques éducatifs est aussi une communauté de plus en plus active. Il participera ainsi au Forgeathon 2024, un week-end de contribution organisé à Paris les 5 et 6 octobre prochains. Pour ces applications, Arnaud a choisi la licence GPL V2 ou supérieur. Il indique dès la page d'accueil du projet que toutes ces applications sont gratuites, sans publicité, ne contiennent ni cookies ni traceurs et peuvent être utilisées par tout un chacun pour tout usage. Bref, c'est libre. Et il explique comment cette liberté encourage la diffusion et crée des synergies. Certaines de ces applications sont déployées comme applications OpenBoard, ainsi que dans Printux, voire adaptées sur la digitale. Le choix de la licence libre facilite ces réutilisations. Ce choix de licence libre va d'ailleurs complètement dans le sens des orientations portées par Audran Le Baron, directeur du numérique pour l'éducation, dans son allocution de clôture à la dernière journée du libre éducatif. En matière de numérique éducatif, nous pouvons désormais affirmer et assumer le fait que les communs numériques constituent l'horizon par défaut des projets soutenus et opérés par l'institution. Par défaut, cela signifie que les codes, les données, les contenus que nous développons ont vocation première à être libres, ouverts et interopérables. La transcription complète de ce discours est sur notre site librealire.org. Et je salue au passage Marie-Odile, qui porte ce travail avec le groupe Transcription de l'April, car remercier plusieurs fois les personnes qui font vivre l'association au quotidien n'est pas de trop. Pour faire plus ample connaissance avec Arnaud Champollion, vous pouvez le retrouver en vidéo ou en podcast dans un entretien de Made by Aaron. Je vous donne l'adresse ainsi que toutes les références associées à cette chronique sur le site de l'émission libreavoue.org. Je termine en saluant chaleureusement Arnaud, avec lequel nous avons de nombreux liens, puisque avant de devenir président de l'association Linux Alps, contributeur OpenStreetMap et développeur de logiciels libres éducatifs, il est l'enseignant qui a appris à lire à mes deux enfants avant de devenir un ami.
Merci Jean-Christophe pour cette chronique, pour nous avoir présenté ce beau projet, et je suis touchée par l'hommage à ton ami. Donc nous remercions nous aussi Arnaud Champollion pour sa contribution libre. Je te donne rendez-vous au mois prochain.
Ça marche, grosse bise, belle émission.
Bise.
Arnaud est connecté sur le chat, juste un petit coucou.
Nous allons maintenant faire une pause musicale. Et après la pause musicale, nous parlerons d'un jeu de la vie privée sur Internet et sur les appareils connectés avec nos personnalités. Et nous, pour l'instant, nous allons écouter Booth Street Psychosis par Tom Woodward. On se retrouve dans environ 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Karen's building castles at a mark. Amongst the tradesmen in their high-vis clothes, their blood's making stains on these rusty chains, and we still don't know which way the crosswinds blow. But don't be scared, it's all a show. Jack Johnson's bootlace wasn't fair, feeding fat to the livers of the goosey goose. Oh yeah, something's pain is another's gain, but we can't be sure just what's the reason for. Are we scared? We want it all. We want it all. We want, we want, we want it all. We want, we want, we want it all. Jill makes love with dinosaurs in the middle of a false flag revolution. Whistles blow, I got visual snow, when I just don't know where do all the goers go. I just wish I would know, stay so low. I want just to know.
Nous venons d'écouter Booth Street Psychosis par Tom Woodward, disponible sous licence libre CC BY 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Passons maintenant au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur les enjeux de la vie privée sur Internet et sur les appareils connectés, avec nos personnes invitées, Audrey Guédin, formateur numérique et auteur, et Louis Neuf, cofondateur d'Exodus Privacy. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Audric, Louis Neuf, je vous propose... Déjà, je vous salue. Bonjour à vous deux.
Bonjour,
j'espère
Lisa.
Que vous êtes tous les deux en ligne et que vous m'entendez bien.
Très, très bien.
Oui, tout à fait.
Super. Donc, je vous propose de démarrer notre discussion de façon classique, par une petite présentation rapide de votre part. Audric, tu veux commencer?
Ok, et eh bien alors, donc Audric Guédan, moi je suis médiateur numérique et formateur. Je suis également auteur, on va en reparler un petit peu. Je fais de la vulgarisation scientifique, hein. J'essaye de rendre compréhensibles des sujets techniques et parfois un petit peu abstraits pour le commun des mortels. Et puis en parallèle de ça, je suis aussi responsable d'un tiers-lieu, donc un espace de coworking où là je continue finalement de faire de la médiation numérique, mais à destination des entreprises et des solopreneurs, car ce sont des sujets qui touchent tout le monde.
Louis Neuf ?
Ben moi je suis un vieil admin système, Unix. J'ai fait plein de choses dans ma vie, blablabla, trop. Et je suis cofondateur d'Exodus Privacy, qu'on a fondé en 2017, septembre 2017.
Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur Exodus Privacy, en sachant qu'on va bien évidemment approfondir le sujet au cours de l'émission?
J'ai pas entendu le début de ta phrase, excuse-moi.
Oui, donc tu es cofondateur d'Exodus Privacy. Est-ce que tu peux faire une courte présentation de cette association, en sachant qu'on va on va parler de ses activités plus tard dans le cours de l'émission?
Bien sûr. Donc Exodus Privacy est une association de loi 1901, fondée par quatre activistes qui sont toujours présents dans l'association. Et on a créé une plateforme d'analyse des applications Android.
Voilà pourquoi c'est pertinent de t'avoir dans notre émission aujourd'hui, en parlant d'un jeu sur de la vie privée sur Internet et sur les appareils connectés. Par ailleurs, je crois que vous deux, Audric, Louis Neuf, vous connaissez déjà, ou je me trompe?
Non, on se connaît parce que je suis ancien membre Exodus et on s'est vu sur certains événements physiques, comme un congrès de bibliothécaires, parce qu'il y avait une animation sur place, et dans différents festivals également, un peu de hackers libristes. Mais sinon, on se croit surtout sur Mastodon.
Tout à fait. Et puis, tu as aussi participé au kit pédagogique avec Metalpoo.
Tout à fait. On va en parler après, je pense, plus en détail.
Tout à fait. C'est donc l'émission d'aujourd'hui est concernée et porte sur ce thème des enjeux de la vie privée sur Internet, sur les appareils connectés. Énormément de personnes utilisent Internet au quotidien ou leur smartphone pour visiter des sites web, consulter ou publier des contenus sur leurs réseaux sociaux, échanger via des messageries instantanées ou par courriel, et effectuer des opérations bancaires, télécharger des applications sur leur téléphone, etc., etc. Mais ces personnes sont-elles tout au courant que leurs actions en engendraient potentiellement d'autres à leur insu qui ne vont pas forcément leur plaire? C'est sans doute bien, je pense, de rappeler quelles sont les embûches dont sont parsemés Internet et les appareils connectés. Louis Neuf, tu veux en parler?
Eh bien, les embûches, elles sont très, très, très nombreuses. Et effectivement, il n'y a aucune information. On vous vend un téléphone en vous disant, vous allez voir, c'est formidable, vous allez avoir le monde dans la poche. Et en fait, vous avez surtout des pisteurs et des gens qui récupèrent toutes vos données pendant que vous marchez, pendant que vous mangez, pendant que vous discutez, pendant que des tas de choses. Et ça, personne n'en a vraiment conscience et c'est un gros problème de vie privée, tout à fait.
Audrey, tu veux rajouter quelque chose ?
Oui, pour faire un parallèle, c'est un petit peu ce qu'on voit déjà lors d'une navigation Internet. Ça, j'ai l'impression que les gens en ont un peu plus conscience parce que va y avoir des pop-up, va y avoir des messages qui vont demander est-ce qu'on accepte les cookies ou pas lorsqu'on navigue sur un site. Donc la plupart des gens cliquent sur le bouton vert sans lire, évidemment. Là, on a l'impression que les gens ont l'information, mais dès qu'il s'agit d'objets connectés ou de téléphones, c'est pas visible de la même manière. Et effectivement, on se pose pas de questions, ou alors on se doute que peut-être il y a quelque chose, mais on préfère ne pas regarder.
Pourtant, moi j'avais l'impression qu'il y avait de plus en plus de conscience de ces enjeux, du moins au vu de mon expérience qui est très très relative avec mon entourage sous les stands de l'April lors d'événements grand public. Il y a des personnes qui nous disent « je suis préoccupée par les enjeux de vie privée mais peut-être que les personnes ne sont pas conscientes vraiment de en quoi ça consiste ». Vous, au bout de votre expérience, quels sont les sujets qui préoccupent davantage les personnes qui utilisent Internet ou l'objet connecté par excellence qui est l'ordiphone ou smartphone? Audric?
Ouais, moi j'ai l'impression qu'en fait les gens ne se rendent pas compte globalement de tout ça. Alors on a l'impression qu'il se passe des choses, mais c'est pas pour ça que les habitudes ont changé. En tout cas, c'est un petit peu le regard que je porte là-dessus, parce que si on regarde, je sais pas, les révélations d'Edward Snowden qui ont maintenant 10 ans, j'ai pas l'impression que le grand public ait vraiment évolué sur ces questions-là, que le public ait changé vraiment ses habitudes.
Et rappelons qu'il y a Edward Snowden et quelles sont ses révélations. Ah.
Oui, Edward Snowden, ancien analyste à la CIA et à la NSA, qui est devenu lanceur d'alerte c'était 2013, si je ne dis pas de bêtises, et qui a fourni à différents médias, notamment des journalistes américains, les preuves que le gouvernement espionnait la population, toujours sous couvert de lutte contre le terrorisme, sauf qu'en fait, ils espionnaient tout le monde.
Systématiquement, en s'appuyant sur des GAFAM, quoi, sur des géants du net.
C'est ça, en écoutant directement les silos de données des GAFAM, ça permet d'espionner tout le monde et d'écouter. Ils regardaient les données de, on va dire, 7 personnes affiliées à une personne. Donc en fait, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, voilà, fois 7, en final, ça permet d'espionner tout le monde.
Donc
malgré ça, il y a eu pas mal de... Il y a eu des documentaires, il y a eu des livres, il y a eu beaucoup d'informations à un moment, mais j'ai pas l'impression que fondamentalement ça a changé l'habitude de la plupart des gens. Alors ça a permis d'éveiller un petit peu des consciences. Moi c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai commencé à me poser des questions.
Toi
sur
aussi.
La vie privée et mon utilisation du numérique. C'est peu de temps après que j'ai commencé à essayer de faire ça différemment, puis ensuite de faire de la promotion, on va dire, et d'accompagner les gens autour de moi. Mais on a l'impression que parfois, il ne s'est rien passé et que les gens n'ont pas vraiment changé là-dessus.
Et est-ce que c'est le même constat que tu fais, Louis-Neuf ?
Tout à fait. Les gens ne se rendent pas compte des enjeux. Et il y a beau y avoir des sorties de scandales partout, les Panama Papers, les autres sorties des Edward Snowden, ça ne change rien parce que ça ne passe pas en réalité dans les médias les plus écoutés. Vous ne voyez pas ça sur BFM TV, ni sur CNews. Ça ne les intéresse pas. Et c'est là pourtant que ce sont les gens.
Donc tu dis que ça passe par des médias plus confidentiels, et donc l'information passe à la trappe.
Voilà, tout à fait.
Et c'est pour ça que la médiation numérique, ce que fait Audric, ce que fait aussi l'association Exodus Privacy, devient important, parce que comme l'information ne passe là où les gens sont, eh ben, il faut que l'information passe par autre canal. En quoi ça consiste pour vous? Comment définiriez-vous la médiation numérique? Tu veux commencer, Louis-Neuf? Ah, Audric, alors sinon.
Pardon ?
Je peux laisser la parole à Audric si tu préfères.
Vas-y, Audric.
Ok. Pour moi, quand on parle de médiation numérique, il faut d'abord remettre aussi au milieu de la table, c'est quoi la médiation? Et je parle souvent de la médiation entre deux humains, ça on voit à peu près ce que c'est, hein. Je sais pas, deux voisins qui s'entendraient pas, et ben, y a un médiateur qui va essayer de faire un lien entre les deux pour qu'on arrête de se taper dessus. Ben, pour moi, la médiation numérique, c'est un peu l'équivalent, mais avec l'informatique et les outils numériques. L'idée, c'est de fluidifier les interactions, enlever des crispations ou des peurs que ça peut générer, et accompagner également les gens vers l'autonomie. Donc il y a toute cette partie acculturation et technique. Mais la notion des enjeux est également très importante parce que notre vie maintenant est complètement dématérialisée. Je pense à l'accès aux droits, par exemple, tout ce qui est administratif, les impôts, la cantine des enfants. Tout ça se fait par Internet, sur des plateformes. Et si on ne comprend pas comment ça marche, bah, on est perdu. Il faut avoir conscience qu'il y a à peu près 20% de la population qui est en grande difficulté. Alors, 20%, c'est le chiffre officiel. Moi, je pense qu'il est plus élevé que ça, parce qu'il y a des gens qui estiment savoir utiliser des machines, des ordinateurs, sauf qu'en fait, dès qu'il y a un problème, elles sont complètement bloquées. Donc ça, c'est une grosse problématique. Et donc par-dessus, on rajoute les questions de données, de vie privée, sauf qu'en fait, les gens sont déjà bloqués à la première étape, quoi. Donc il faut faire de la médiation pour fluidifier tout ça et accompagner le grand public et également les entreprises.
Et la médiation passe aussi, bien évidemment, par des outils. Et c'est ce que fait l'association Exodus Privacy. On le verra plus en détail, au cours de cet échange. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez davantage quand vous faites des formations ou des ateliers? Parce que je sais que l'association Exodus Privacy aussi en fait. Peut-être que tu as quelques anecdotes à nous raconter, Luneuf.
Le plus dur pour nous, c'est déjà de capter les gens. Rien que ça, c'est.
Capter, c'est-à-dire les faire venir aux
Voilà,
ateliers.
Les intéresser. On a parfois l'impression d'être des témoins de Jéhovah. Il faut mettre le pied à la porte pour que les gens nous écoutent un peu. Mais quand on réussit, ou quand ils nous invitent, ce qui est plus agréable, on a des réactions tout à fait pas étranges, mais qui sont pas les nôtres, en fait. Je me souviens d'un reportage de France 2 auquel on a participé dans une classe à Rouen, où une jeune fille nous disait, mais qu'est-ce que ça peut faire comme trace? Ils sont américains. Ils peuvent rien contre moi. Et on se rend compte là qu'il y a un saut qui n'a pas été fait. Que les gens ne se rendent pas compte que, américain ou pas, Internet, c'est partout. Et donc il y a l'impression que chacun est dans sa bulle, alors que tout est relié. Et il faut batailler ferme pour montrer que ce qu'on fait aujourd'hui peut avoir des incidences demain.
Audric, tu veux raconter quelles sont les difficultés que toi aussi tu as rencontrées?
Oui, alors je pense que moi, les difficultés que je rencontre avec les gens que je peux accompagner, on est vraiment sur le béaba de l'informatique, en fait. Savoir naviguer sur Internet, savoir gérer ses mots de passe, c'est pas évident pour une bonne partie des gens. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 4 000 conseillers numériques, hein, qui ont été déployés sur le territoire depuis à peu près 3 ans. Mais ça reste insuffisant, hein, parce que c'est des postes précaires, ils sont au SMIC, ils ont des contrats de 2 ans sans garantie de suite. Donc
Tu parles bien de fonctionnaires, de personnes.
Non, ils n'ont pas forcément des statuts de fonctionnaires.
Ou des agents publics, peut-être.
Ouais, c'est un peu un statut entre deux, parce qu'il y en a qui sont dans des associations. En fait, c'est des postes financés. Donc, il y a des mairies qui ont des conseillers numériques, des centres sociaux qui peuvent en avoir. Il y en a certains qui sont directement dans des organisations à plus grande échelle et qui sont déployés sur le territoire pour accompagner en fait, la population. Mais 4 000, on a l'impression que c'est un grand chiffre. En fait, c'est pas assez. Alors, c'est déjà très bien, mais il faut continuer d'accompagner les gens là-dessus. Et pour rebondir sur ce que disait Louis-Neuf juste avant, la surveillance, on la voit aussi au quotidien. Et plus on la voit, plus en fait, on ne la voit plus. J'ai un exemple, c'est qu'il y a eu des caméras de surveillance qui ont été installées là pendant les JO. Au début, ça devait être qu'une expérimentation. Après, on nous a dit, bon, ça reste pendant les JO. Et puis au final, ça va rester indéfiniment. Parce qu'une fois que c'est installé, En général, on n'enlève pas des outils qui sont là et qui fonctionnent et qui sont censés, entre guillemets, protéger la population, mais c'est très facile de retourner le système contre nous.
Pourtant, il y a des structures qui avaient alerté justement sur cette possibilité. Je pense notamment à la quadrature du net, pour faire référence vraiment à l'exemple que tu portes. Donc oui, on a l'impression que même quand l'information passe, c'est-à-dire on vous dit que c'est votre conversation peut être suivie, analysée, par exemple par l'État américain, bah les personnes disent bon, qu'est-ce que ça peut me faire. Donc il y a vraiment un blanc et je comprends donc toute votre difficulté à faire comprendre les enjeux, mais ça c'est le côté difficile du métier. J'imagine qu'il y a aussi des belles victoires, des belles satisfactions que vous pouvez aussi éprouver lors de vos ateliers et formations. Et donc, j'ai envie aussi de vous demander de partager avec nous quelques beaux moments de formation, de médiation numérique. Audric ?
Moi, j'ai une grande satisfaction de savoir que des outils que j'ai pu... créer, alors bah, je pense notamment à ma bande dessinée, qui sont utilisés par d'autres médiateurs et conseillers numériques et qui s'en servent comme outil pédagogique dans le cadre d'ateliers. Donc je me dis que c'est une bonne manière d'essayer de toucher un public plus large, c'est directement de parler et d'accompagner les personnes qui forment ce public-là. C'est aussi pour ça que j'ai continué de me former et d'accompagner des structures directement plutôt que le faire en grand public. J'ai l'impression que c'est plus efficace. Et en tout cas, ça fait plaisir qu'on nous dit que j'ai enfin compris un concept qui me paraissait très bizarre. Je comprenais pas ce truc technique et le fait de l'avoir imagé de manière un petit peu humoristique, ça passe mieux et souvent après les gens commencent à essayer de changer un petit peu leurs habitudes. Mais c'est ça qui est le plus compliqué, hein, parce que globalement, il faut le dire, on a la flemme. Hein, changer quelque chose qui marche, ça fait 10 ans que je fais comme ça, j'ai pas envie de changer mes habitudes. C'est ça le plus compliqué. Mais ça fait plaisir quand on voit que les gens font cet effort.
J'ai l'impression que justement le fait de changer, j'ai pas l'impression, c'est scientifiquement prouvé que faire changer des habitudes c'est extrêmement difficile. On dit que le cerveau met en général moyenne 21 jours à changer une habitude et malheureusement il y a plein de personnes et de structures qui profitent de cette faiblesse de notre cerveau. Donc votre travail est d'autant plus important. Lui 9, est-ce que tu veux partager avec nous quelques beaux moments, quelques fiertés au cours des formations ateliers que tu as eu l'occasion de faire?
Au cours des formations qu'on a pu faire sur le terrain, on a toujours le petit, comme disait Audric, le petit déclic. La personne qui dit « je vais peut-être jeter mon téléphone ». Alors on sait très bien qu'elle ne le fera pas. Mais rien que de le penser, il y a eu un déclic. Et ce déclic, c'est ça qu'on cherche. Parce que cette personne va sans doute en parler autour d'elle. Et de déclic en déclic, on finira par allumer la lumière.
C'est une belle image. On commence par la lumière dans les yeux de la personne.
Voilà.
Et après, peut-être qu'on va allumer la lumière dans toute la pièce.
Voilà, tout à fait.
Très bien. Alors, on a parlé tout à l'heure, Audric fait aborder tout à l'heure le sujet d'une bande dessinée. On va en parler là. Effectivement, tu as écrit une bande dessinée qui s'appelle Datamania, le grand pillage des données personnelles. Tu n'as pas fait les dessins, tu as fait appel à un graphiste pour la partie dessin, mais c'est toi qui as écrit les textes. Et il s'agit effectivement d'une bande dessinée qui aborde ces sujets, des enjeux de la vie privée, tout en mettant effectivement beaucoup d'humour. Donc pourquoi as-tu décidé, toi qui étais médiateur informatique, parce que ça prend du temps aussi de mettre en œuvre, d'écrire du contenu comme ça, c'est pas anodin. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire cette œuvre et pourquoi la BD?
Alors en fait, c'est une idée que j'avais depuis le début, avant même mon premier livre que j'avais sorti avant, qui était sur un sujet de niche, hein, les consoles de jeux open source. Bon, c'était un petit truc, mais je ne me sentais pas de commencer tout de suite par une BD. Par contre, comme j'avais déjà le contenu, ayant déjà animé un certain nombre d'ateliers, de formations, ça a été assez facile, en tout cas pour moi, de le retranscrire sous ce format un petit peu humoristique. Et j'ai voulu le faire sous forme de BD parce que, ben à ce moment-là, je n'avais pas trouvé moi de BD qui parlait de ce sujet-là. Alors j'en avais trouvé une qui parlait de Big Data, mais qui datait aussi un petit peu, hein, elle datait de 2014. Et puis le Big Data, ce n'est pas exactement la même chose. En tout cas, ça ne parlait pas de la captation des données, de comment on peut se protéger.
Qu'est-ce que tu
Donc
entends,
j'avais.
qu'est-ce qu'on entend par Big Data pour les personnes qui nous
Bah,
écoutent?
là, c'était plus les données utilisées, collectées, utilisées par les entreprises pour faire des statistiques. Ça ne parlait pas du tout de vie privée, en tout cas à ce moment-là.
D'accord.
Et j'avais envie de parler de ce sujet-là. C'était à la fois pour un peu finir une boucle, comme un cycle, parce que ça faisait plusieurs années que je parlais de ces sujets-là et que, entre guillemets, je saoulais un peu tout le monde avec ça. Mais je pense qu'il faut faire ça pour que les gens se réveillent, voilà, et qu'on allume la lumière. Et j'avais envie que ça soit accessible même pour du jeune public. Et la BD documentaire, je pense que c'est un très bon moyen de faire passer des sujets qui peuvent paraître anxiogènes, parce que, voilà, dire. Vos données sont captées, vous êtes espionné en permanence, à part avoir envie de se réfugier dans une grotte, on se demande un peu ce qu'on peut faire. Alors, il existe un certain nombre de ressources, il y a des très bons livres, il y a des très bons sites qui vont proposer des solutions, faire des tutoriels, mais ça reste des documents techniques qui parfois sont compliqués d'accès. Donc, le faire avec de l'humour, dans un univers un petit peu science-fiction, parce que ma BD, ça se passe dans l'espace, hein, le cyberespace, c'était pour faire un lien. Voilà, je trouve que c'était une approche un peu différente et originale. Et en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié le faire sous cette forme-là, parce qu'à la base, avant d'être dans le numérique, moi, j'étais dans l'audiovisuel. Donc, raconter des histoires, c'est toujours quelque chose
Ah,
qui
voilà
m'a
le lien.
plu.
Donc, tu t'es beaucoup amusé, j'imagine, en faisant cette vidéo.
Beaucoup, et il y a énormément de références cachées. Alors, il y en a certaines qui sont expliquées à la fin du livre, mais pas toutes. Il y a vraiment des trucs, il faut être pointu pour les trouver, les références.
Et dans la BD, tout à l'heure, tu disais il faut saouler les gens parfois. Et on parlait d'humour. En fait, j'ai beaucoup aimé la partie où tu parles des logiciels libres toute la journée
C'est ça.
avec ta compagne. À un bout d'un moment, elle n'en peut plus. Et j'ai beaucoup aimé, à un bout d'un moment, tu visites, quand tu es dans le voyage dans l'hyperspace, tu visites la planète GNU/Linux,
Oui.
qui est la planète que tu as inventée en hommage du système d'exploitation libre, et tu te prends en photo avec tous les pingouins qui sont sur la planète. C'est très marrant.
C'est ça, ouais.
Non, non, mais c'est vrai que c'est vrai que quand on dit aux gens, voilà, vous êtes espionnés en permanence, bah, une réaction, ça peut être, oui, je me réfugie dans une grotte dans la forêt, ou alors j'arrête de penser à ça et je continue à faire exactement comme avant. Donc effectivement, il faut trouver peut-être le bon canal pour dire non, c'est vrai, la situation est grave, mais il y a des solutions et je suis là pour vous accompagner. Et voilà, il faut juste mettre en pratique certaines choses. Donc en parallèle, l'association, donc cette bande dessinée, donc est aux éditions, je me souviens plus le nom de la maison d'édition.
C'est Duno.
C'est Duno et c'est sorti en
Ouais.
mars 2023, donc
C'est ça.
l'année
Il
dernière.
y a un peu plus d'un an.
Il y a un peu plus d'un an, et en juin 2023, donc quelques mois plus tard seulement, Exodus Privacy publiait un kit smartphone et vie privée, un kit pédagogique. Et donc, je souhaiterais, Luneuf, que tu m'en parles un peu plus, s'il te plaît, pourquoi vous avez décidé de réaliser ce kit et en quoi ça consiste?
On a décidé de réaliser ce kit parce qu'on se rendait compte que finalement, dans les ateliers que nous animions, on disait toujours la même chose. C'est normal, on rabâchait. On saoulait notre public, exactement comme Audric, tout à fait. Et on s'est dit, mais les médiateurs numériques, est-ce qu'ils ont les outils? Est-ce qu'ils ont les bons outils? Parce que beaucoup viennent nous voir, ils nous disent, ah, c'est génial ce que vous faites, mais c'est compliqué. Et là, on s'est dit, on va leur prémâcher le travail et leur proposer un kit tout près où ils n'auront plus qu'à suivre le déroulé, bien sûr, en s'appropriant, hein. Il faut bien évidemment se le mettre en bouche et l'avoir à soi, mais les médiateurs numériques ont du coup comme ça un outil qu'ils peuvent utiliser quasiment brut de décoffrage pour animer des ateliers et donc répandre la tâche d'huile, l'exodus privacy un peu partout.
Et en quoi ça consiste? Parce qu'il y a plusieurs, non, c'est un kit, donc il y a plusieurs outils au sein du même kit. Donc moi je sais ce qu'il y a dedans, mais je préfère que tu les présentes toi.
Alors il y a des vidéos qui expliquent les trackers. Il y a une.
C'est quoi un tracker?
Alors un tracker, c'est un tout petit bout de logiciel qui est caché dans une application et qui va aspirer les données de l'utilisateur ou l'utilisatrice.
Donc on est d'accord que c'est une autre façon de dire pisteur?
Oui, tout à fait.
Ok, ce sont synonymes. D'accord, donc une vidéo qui explique ce que sont ces trackers ou pisteurs.
Voilà, tout à fait. Comment ils fonctionnent et pourquoi ils sont dangereux. Alors, on ne rentre pas dans le détail de comment ils fonctionnent. Hein. Bien évidemment, ça reste très, très haut niveau, on ne va pas faire de code. Je vous rassure.
L'idée, c'est donc, de vulgariser, voilà.
Voilà, il y a cette vidéo, ces vidéos. Il y a également des slides pour qu'ils soient diffusés aux personnes qui assistent à la formation.
Donc un diaporama, là, pour accompagner un diaporama, on va dire, pour accompagner la présentation.
Okay. Il y a une fiche récapitulatrice, je vais y arriver. du déroulé de la formation pour le formateur ou le médiateur ou la médiatrice numérique. Et à la fin de la présentation, chaque participant repart avec son propre déroulé, ce qu'il a fait, ce qu'il a appris, et pour pouvoir se le remémorer quand il veut. Il ouvre sa fiche, il lit, il se rend compte que ah, là il n'a pas été bon, il aurait pu faire mieux. Et petit à petit, peut-être réussir à se débarrasser de mauvaises habitudes.
Voilà, donc c'est vraiment une formation, on va dire, une présentation clé en main. Tout est déjà prêt. Et pour concevoir ce kit, je sais que vous avez fait appel à des bénévoles. Vous l'avez testé. Il y avait un prototype en fait qui circulait à un moment. C'est intéressant de savoir comment vous avez conçu ces outils.
Déjà, il faut rendre hommage à Metalpou qui a porté le projet.
Metalpou, c'est un autre membre de Exodus Privacy.
Tout à fait, qui a été président pendant 3 ans et qui a porté ce dossier. Et comme elle est médiatrice numérique, elle a pu contacter de ses collègues qui ont eu la primeur de tester ce kit. Et on a également fait quelques appels discrets, mais appuyés sur les réseaux sociaux pour avoir un échantillon plus vaste. Et les retours qu'on a eus étaient tous excellents, donc on a persévéré dans nos erreurs.
Mmh. et à propos de retours, une fois que vous avez publié donc la version officielle de ce kit pédagogique, une fois qu'il a été validé, peaufiné et mis à disposition en ligne, j'imagine que vous avez aussi fait de la pub pour que les gens justement puissent le télécharger et l'utiliser. Et est-ce que vous avez eu des retours de la part de personnes qui auraient téléchargé, utilisé ce kit?
Alors il y a beaucoup de gens qui nous ont dit j'ai récupéré le kit, je vais l'utiliser, et qui nous disent plus rien.
Bon,
c'est pas grave, hein. C'est pas grave, l'important c'est qu'ils l'utilisent. Et puis 2-3 personnes qui lui ont dit « Ah, c'est génial, ça a bien marché, je le referai. » Et ça, ça fait très, très plaisir.
Bah oui, parce que c'était un projet quand même de longue haleine. Hein.
Oui.
C'est parce que en fait, ouais, moi, je regardais les outils et tout semble très simple. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, dans la vidéo, dans les slides, dans le diaporama, il y a des dessins très simples, pas trop chargé en mots, ce qui est très bien pour les diaporamas, éviter d'écrire trop dans les A, etc. Mais en fait, avoir cette simplicité, ça demande beaucoup de travail. C'est peut-être synthétiser, rendre simple et agréable et plaisant aussi à voir. C'est un gros boulot. Et les dessins aussi sont très jolis. C'est qui à l'origine pour les dessins?
Alors ça dépend de la version en fait. La toute première version, c'est les dessins de Metal Pooh.
D'accord.
La musique aussi. Et la nouvelle version qui devrait pas tarder. Les dessins sont de Lila, si je me souviens bien. Oui. Ainsi que la mise en forme et l'animation.
D'accord. Et eh ben, on les remercie très très fort parce que c'est vraiment un joli travail. Et toi, Audric, est-ce que tu as eu des retours suite à la publication de ta bande dessinée Datamania?
Ah bah, pour la bande dessinée, j'ai eu des retours d'autres médiateurs numériques. Et d'ailleurs, dans la BD, il y a un petit clin d'œil à Exodus Privacy. Peut-être qu'il y en a qui l'ont vu. Mais oui, des retours très très positifs et même des retours aussi de magazines un peu techniques. Je pense à Linux Magazine notamment quand on a parlé. Donc ça faisait plaisir d'avoir cette petite mise en avant.
Est-ce qu'ils ont publié un commentaire, un avis sur le magazine?
Il y a eu un article. Ils avaient fait un article complètement. De mon côté, j'avais fait une petite revue de presse où j'avais récupéré toutes les infos que j'avais trouvées parce que il y a eu un petit peu de communication autour du livre malgré tout. Donc ça j'en suis plutôt content. Et que des retours positifs.
Très bien. Bah, écoutez, je vous propose de faire une pause musicale là, parce qu'après on va aborder d'autres sujets. Donc après la pause musicale, nous entendrons une nouvelle. La pause musicale, nous continuerons à parler de ce sujet. Mais pour l'instant, nous allons écouter. Je vais vous dire tout de suite le temps que je retrouve le titre. Nous allons écouter donc un titre qui a été choisi par Audric, Cascade par Kubi. On se retrouve dans environ 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Thank you.
Nous venons d'écouter Cascade par Cubi, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY SA 3.0. Comme je disais tout à l'heure, ce titre a été choisi pour notre invité Audrey Guedin, qui nous a dit aimer beaucoup les sonorités 8 bits. Avant de lancer notre jingle spécial musique, est-ce que tu peux nous expliquer, Audrey, qu'est-ce qu'on entend par cela ?
Ah bah, la musique 8 bits, c'est de la musique
le micro
qui reprend
pour Audrey.
Des... Allô, allô ? On m'entend ?
Oui, Audric ?
Oui, je suis là.
Ah, je t'entends plus ?
On
ah oui, très bien. Oui, je disais, qu'est-ce qu'on entend par sonorité 8 bits ?
Alors, c'est de la musique qui fait beaucoup penser à ce que peuvent faire des sonorités de jeux vidéo. On peut parler de musique chiptune également, parce que les tout premières musiques de jeux étaient faites directement avec des micro-puces. Et bah, comme je suis assez fan de jeux vidéo, notamment de vieux jeux, voilà, c'est un type de musique que j'aime bien. Je trouve que ça donne toujours un petit peu la pêche.
C'est vrai, moi j'ai dansé. Et c'est tout,
ouais,
en,
bah voilà.
C'est tout en cohérence avec ton parcours.
C'est ça.
Place au jingle musique.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons poursuivre notre discussion. Je suis Isabella Vanni de l'April. Les autres personnes qui participent à l'émission sont Audric Guedin et Louis Neuf de Exodus Privacy. Cette émission est consacrée aux enjeux de la vie privée sur Internet et sur les appareils connectés. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Je voudrais parler dans cette deuxième partie de notre sujet principal. J'aimerais vous lire les commentaires que Mario Dill, donc membre du conseil d'administration de l'April, a laissé sur le chat de l'émission. Elle dit souvent les boutons accepter ou refuser. Elle fait référence aux cookies hein, quand on va sur un site web ne sont pas sur le même plan, l'un est en bas et l'autre en haut, écrit plus petit en plus, donc il faut remonter sur la page. C'est très pénible de toujours avoir à refuser. Il faudrait que ce soit l'inverse. On refuse tout par défaut et on choisit ce qu'on accepte. Donc effectivement, même quand on est au courant qu'il peut y avoir des cookies qui récupèrent des informations et que l'RGPD, c'est-à-dire le règlement général sur la protection des données, aujourd'hui, voilà, c'est une loi qui oblige les sites web à donner le choix aux utilisatrices et utilisateurs, en fait, ça, les choses ne sont pas forcément rendues simples pour effectuer un choix et éclairé. Est-ce qu'on peut en profiter de cette remarque de Mario Dill pour expliquer pourquoi certains cookies, s'en passer? Et d'autres, par contre, on aurait a priori la faculté de choisir ou pas de les avoir sur son ordi. Peut-être Louis Neuf pour commencer.
Personnellement, je refuse tous les cookies. Point. Donc, je commence par ça. Et puis après, je regarde le site sur lequel je suis et quel est son niveau d'intérêt pour moi. Est-ce que c'est vital ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que c'est amusant ? Ou est-ce que c'est bof. Et selon mon résultat d'analyse, j'accepte ou pas certains cookies. Et je pense que c'est malheureusement parce que la loi n'est pas respectée, la seule façon de faire. On commence par interdire et puis après, on autorise peut-être quelque chose. Mais il est vrai que c'est l'inverse qui devrait être mis en place. Et c'est ce que demande la loi. Par défaut, c'est non.
Mais pas tout le monde.
Bien. D'accord.
Oui, et malheureusement, normalement, il devrait y avoir juste un clic à faire pour réfuser. Alors que dans certains sites, il faut vraiment chercher, cliquer plusieurs fois pour tout refuser. Donc j'aime bien ton approche, Lunov, tu te dis, est-ce que ce site, est-ce que c'est important, est-ce que c'est vital pour moi? On peut aussi choisir en fonction de nos vrais besoins, si juste on se pose un instant et on prend le temps de réfléchir. Et quand on parle de cookies, ce que les sites appellent cookies nécessaires, de quoi il s'agit? Les cookies qu'on ne peut pas refuser, même si on peut refuser les autres, c'est quoi, Audric?
Bah, il y a certains cookies, par exemple sur une boutique en ligne, le cookie qui va enregistrer ce qu'il y a dans mon panier. Donc s'il n'y a pas de cookie, en fait, je ne peux pas avoir de panier, donc ça ne marche pas dès que je vais changer de page. Ça, c'est un cookie qui est essentiel, sinon le site, entre guillemets, il est cassé. Donc cela, je peux comprendre qu'on en ait besoin, mais les autres, effectivement, si je peux dire non, voilà, je dois pouvoir le faire. Mais il y a aussi un autre problème, il y a respecter la loi, mais aussi faire appliquer la loi. En France, c'est la CNIL, hein, la Commission nationale informatique et liberté, qui est censée, entre guillemets, taper sur la tête des entreprises qui ne respectent pas la loi, sauf que eux-mêmes parfois, ont du mal à se positionner. Alors, ils ne sont pas énormes hein, à la CNIL, il n'y a pas beaucoup de personnes et ils n'ont pas énormément de pouvoir finalement. Si bien qu'ils tolèrent, eux, entre guillemets, le bandeau de cookies où, par exemple, il y a accepter qui est en vert et continuer sans accepter, donc qui est pas vraiment refusé, hein, c'est refusé sans le dire, qui va être grisé et dans un coin et qu'on va pas voir. Donc pour l'instant, ça passe encore. Peut-être qu'un jour, ça va changer, mais voilà, faudrait faire appliquer la loi vraiment complètement.
Oui, la CNIL est une autorité indépendante donc, qui est là pour informer déjà les personnes sous leurs droits et elle les aiguille aussi sur les démarches à faire pour faire respecter la loi. Il y a beaucoup de formulaires, par exemple, que vous pouvez télécharger. J'en parle parce que je l'ai fait moi-même. Un formulaire, par exemple, pour des modèles de messages pour demander à un site, par exemple, d'effacer vos données, vos adresses de contact, vos données personnelles. Et normalement, elle est aussi là pour sanctionner hein, cette partie-là aussi. Donc, sur signalement, des personnes. Mais comme tu le disais, Audric, les moyens de la CNIL ne sont pas à la hauteur des objectifs.
Oui, clairement.
Ça, c'est sûr.
Et puis même sur les signalements qu'on peut faire, il peut y avoir beaucoup de mois de délai pour qu'il y ait un traitement et parfois ça n'aboutit à rien. Donc on peut voir sur Internet, sur les réseaux, certains activistes qui s'énervent un petit peu et qui s'impatientent du manque de réactivité de cet organisme.
Oui, tout à fait. Je disais donc j'ai porté cet exemple de Mario Dil. On peut pas s'attendre que la CNIL ressoude tout. ça c'est sûr. Donc il faut déjà nous-mêmes nous outiller pour faire le maximum de notre côté. Et là, c'est la partie où je vous invite en fait à partager avec nos éditrices, auditeurs, les astuces pour s'informer, pour avoir des conseils, justement pour s'outiller. Qu'est-ce que vous conseillerez de faire pour une personne qui souhaite, allez, aujourd'hui je commence à mieux protéger ma vie privée quand je vais sur Internet ou quand j'utilise mon smartphone. Audric ?
Je pense qu'en numéro un, alors c'est facile à dire, mais il faut faire de la veille. Il faut s'informer. Donc, il faut suivre sur les réseaux les bonnes personnes. Alors, à la fois des personnes très techniques et également des personnes qui vont justement vulgariser tout ça. Je pense que c'est intéressant d'avoir, entre guillemets, les deux points de vue. Il faut lire des livres. Il faut être curieux et il faut prendre le temps de se faire accompagner. Alors, sur Internet, mais aussi dans des lieux physiques. Il faut participer à des événements. Je pense notamment à ce qu'on appelle les cafés vie privée, qui sont des événements qui ont lieu bien souvent dans des lieux privés, donc dans des bars, dans des cafés, dans des bibliothèques, où là, on va rencontrer un collectif, une association, en tout cas un groupe de personnes qui met du temps et qui va justement expliquer tout ça et accompagner le public dans la prise en main et l'installation de certains outils pour protéger leur vie privée. Il faut aller voir aussi s'il y a une association Linux dans son coin, les fameux GUL, les groupes d'utilisateurs de logiciels libres, il y en a un petit peu partout. Donc il faut pas avoir peur de pousser la porte et de demander de l'aide à quelqu'un qui est un peu plus au courant de tous ces sujets-là. Et puis à force, on va monter en compétence et on sera peut-être autonome.
Par ailleurs, je vous rappelle qu'il y a un site qui s'appelle agendadulibre.org qui permet facilement de trouver des événements autour du logiciel libre, mais aussi autour des sujets de vie privée près de chez vous. Les événements sont affichés sous forme de calendrier, mais aussi sous forme de cartes. Donc c'est facile d'en trouver. Et le même site référence aussi les associations, les structures qui s'occupe de ces sujets. Donc n'hésitez pas à le consulter si vous voulez franchir le pas. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, Audric, c'est-à-dire voir les gens aussi en vrai, parce que parfois se mettre à lire un bouquin ou je sais pas, se mettre à suivre tout seul dans son coin des tutoriels dans l'ordi, ça peut être un peu dur, un peu déprimant, tandis que voir des humains, interagir avec des humains, ça peut être une très très porte d'entrée. Et ça peut nous motiver, nous encourager, le fait de voir d'autres personnes. Donc, je trouve que c'est pas mal comme idée. Louis IX, tu as d'autres suggestions
Éteignez vos téléphones.
Et pourtant, tu fais partie d'une association qui a mis en place plein d'outils pour mieux utiliser nos téléphones. Mais tu dis c'est mieux d'éteigner.
Mais qui n'est pas totalement dénué de raison. Parce que si on regarde bien la plateforme Exodus Privacy, par exemple, nous avons, laissez-moi retrouver le chiffre, 500 000 rapports pour 210 000 applications testées. Ce qui est absolument énorme. On se demande encore comment ça tient sur les machines, mais ça tient. Grâce à certaines personnes de l'association qui font un boulot formidable. Voilà, je le dis, hein, parce que il faut que tout le monde ait sa louche.
Et en fait, on va rappeler d'ailleurs que Exodus, ce sont deux outils principaux. C'est la plateforme en ligne, donc c'est une plateforme d'audit. C'est très simple à utiliser, n'est-ce pas, Louis IX?
Bah, moi, je le trouve très simple, forcément, puisque j'ai participé à sa mise en place. Mais je comprends que ce soit un peu déroutant au début. Le principe, c'est que on a une nouvelle application qui nous tombe dans les mains, parce que le collègue vous en a parlé, parce que... Et avant de l'installer de façon un peu, je dirais pas bête, mais un peu impulsive, on va aller sur la plateforme et essayer de voir si elle a été déjà analysée, et si elle ne l'a pas été, la proposer, et avoir le rapport de l'analyse avec le nombre de pisteurs présents dans cette application et le nombre d'autorisations qu'elle demande et quelles autorisations. Parce que il faut pas oublier que dans les applications Android et iPhone aussi, hein, c'est le cas aussi sur iPhone, il y a les pisteurs, mais il y a aussi les autorisations qui sont demandées.
Cette autorisation, c'est-à-dire l'application demande à pouvoir accéder à des choses que sont de le téléphone, à d'autres applications.
Par exemple, une application de lampe de poche qui va vous demander d'accéder à vos contacts.
Bah, ça ne sert à rien.
Voilà, bah, je suis ravi de te l'entendre dire. C'est exactement ce qu'il faut se dire. C'est tout à fait ce qu'il faut se dire. Ce truc, est-ce que j'en ai besoin, réellement? L'exemple le plus courant qu'on cite dans les conférences, c'est notre souffre-douleur Météo France, qui demande la géolocalisation toutes les minutes. Qu'est-ce qui se passe dans la rue toutes les minutes? Qui se met à pleuvoir comme ça d'un seul coup, des sauts? Non, ça se voit. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. On est bien d'accord.
Je crois d'ailleurs que c'est l'une des applications qui demande le plus d'utilisation et qui a le plus de pisteurs, je me trompe.
Tout à fait. Je n'ai pas l'application la plus demandée, la plus pisteuse en tête, mais ça fait partie les plus importantes, oui, tout à fait.
Bah, j'invite du coup les personnes qui nous écoutent à faire le test. On met le lien à l'application sur la plateforme d'audit d'Exodus. Vous avez la référence sur la page de l'émission. Et là, le rapport vous sort toutes les permissions et tous les pisseurs qui sont présentes. C'est assez impressionnant. Je vous invite vraiment à le faire. Et Exodus n'est pas seulement cette plateforme d'audit en ligne, c'est aussi l'application. Du coup, c'est à la même fonction, j'imagine.
Tout à fait, c'est la même fonction, sauf qu'on n'a pas besoin d'être devant son ordinateur. L'application peut être téléchargée sur le Play Store et sur Android, qui est un magasin alternatif. C'est un peu plus compliqué sur Android, ça s'adresse plus à des publics un peu plus éduqués.
Alertés.
Voilà. Mais sur le Play Store, elle est disponible, et donc vous pouvez la récupérer. Et ce que va faire l'application, c'est qu'elle va demander au téléphone de lui donner la liste des applications installées, va faire un boubli-boulga avec ça, l'envoyer à nos serveurs qui vont déplier le boubli-boulga et vous renvoyer le résultat pour telle application. Il y a tant de pisteurs et tant de permissions, et voici ces permissions. Et là, c'est à vous de juger. Est-ce que vous avez besoin de l'application de la Poste pour trouver une boîte aux lettres ?
C'est ce que tu disais, je pense, à l'occasion d'un autre échange. Ce qui est important pour l'association, c'est pas de vous. L'association ne veut pas vous dire ce que vous devez faire ou pas faire. L'association vous invite à utiliser, choisir en connaissance de cause. Et après, vous réfléchissez. Bien évidemment, vous faites l'exemple, je crois, dans le kit pédagogique, vous faites l'exemple d'une application de type médical, donc oui. qui a un besoin vital. Donc dans ces cas-là, même si on est au courant qu'il y a des permissions qui sont demandées complètement farfelues, qu'il y a des pisteurs, on se dit c'est ma vie qui est en jeu parce que j'ai une maladie grave. Tant pis, je peux pas m'en passer. Mais pour d'autres choses, comme tu dis, la lampe de poche ou d'autres applications plus banales, on va dire, on peut se poser la question effectivement. Trouver une alternative qui demande moins d'autorisation. Par ailleurs, les applications qui sont analysées sont bien des applications pour Android. Tu confirmes ?
Tout à fait. Il existe un autre projet pour iOS.
D'accord.
Je n'ai pas son nom en tête, qui s'appuie un peu sur nos travaux, mais qui a beaucoup plus de difficultés que nous du fait de la politique un peu méchante d'Apple à ce sujet-là.
D'accord, donc c'est plus compliqué. Si tu as le nom de projet, tu pourras me le passer plus tard, je l'ajouterai volontiers dans les références de l'émission de ce jour.
Bien sûr.
Donc le temps file. Donc on a parlé de plusieurs projets que vous avez mis en œuvre. Quels sont les prochains projets autour de ces thématiques que vous avez en tête? Une deuxième BD, Audric, peut-être?
J'aimerais beaucoup. J'ai commencé à écrire quelque chose qui parle du numérique responsable, donc l'impact environnemental du numérique, qui est un autre sujet. Ça pourrait aussi parler d'intelligence artificielle. Voilà, on en parle beaucoup en ce moment. Et pareil, on peut se poser la question à la fois sur l'impact écologique, mais également sur la question des données, des data. Donc c'est un projet. Ça avance tranquillement. On va voir si ça aboutit. Mais voilà, j'aimerais bien faire quelque chose là-dessus. Ouais.
Plutôt sous forme de livre, peut-être, c'est toi, d'essai?
Non, de bande dessinée.
Bande dessinée.
J'aimerais bien garder un peu la même logique avec un personnage qui fait une espèce de road trip, un voyage, et qui va comme ça trouver de nouvelles connaissances qu'il va ramener à ses proches.
Je peux suggérer une femme, c'est toi?
Mais alors, c'est vrai que c'est une critique qu'on m'a faite, qu'il n'y avait pas assez de personnages féminins dans la BD, mais c'est parce qu'il y a une partie de la BD qui a été coupée. J'avais écrit 15% de plus, et c'est avec l'éditeur, avec plusieurs allers-retours, j'ai dû rogner des choses. Donc il y a des personnages qui se sont mixés, et effectivement, il y a eu des femmes qui ont disparu. Metal Pou était d'ailleurs présente à l'origine dans la BD.
Ah, c'est dommage. Il faut lui rendre absolument hommage dans la deuxième BD, du coup.
Je vais essayer.
Et pour Exodus Privacy, ou pour toi en particulier, Lui9, quels sont les projets qui mijotent en ce moment?
Alors les projets, c'est recruter de nouveaux bénévole parce qu'on commence à s'essouffler un petit peu, avoir un peu de sang neuf, continuer de faire en sorte que la plateforme soit disponible dans un nombre de langues assez incalculable.
Et c'est déjà aujourd'hui, c'est disponible en plusieurs langues ?
Ah oui, énormément. Je crois qu'il y a plus de 80 langues.
C'est énorme, mais du coup, vous avez réussi à recruter tous ces traducteurs, traductrices pour le faire ?
Sur une application partagée, je n'ai plus son nom en tête, décidément j'ai des problèmes de tête. Les gens de la communauté sont venus traduire spontanément.
C'est génial.
C'est assez dingue d'ailleurs, cette communauté est incroyable puisqu'on a déjà laissé des posts de blog le soir 22h en disant si vous avez le temps de traduire un petit truc, ce serait sympa. Et le lendemain, c'est tout le site qui était traduit.
Incroyable.
Donc, je trompe peur.
Et en fait, le site d'Exodus Privacy, d'ailleurs, aujourd'hui, elle est disponible en français et en anglais. Oui. Et après, comme tu dis, la plateforme, elle en elle-même, a toutes ses langues à disposition. Et donc, il faut recruter des bénévoles. Donc, comment on fait pour participer ? Est-ce qu'il faut être technicien ? Est-ce que,
Non, pas du tout. Ah. Il faut juste avoir envie. C'est tout ce qu'on demande. Avoir envie. Je prends encore une fois l'exemple de Metal Pou parce que elle est symbolique. Elle était bibliothécaire quand elle nous a rencontrés. Elle a été présidente de l'association pendant 3 ans. Voilà. Elle s'est mise à la technique. C'était même pas obligatoire, mais elle s'est mise à la technique. Et elle s'est sentie bien. Donc, venez. Venez, on a des cookies. Ah non, on n'a pas de cookies.
Ou alors des vrais cookies.
Voilà.
Bah, et je trouve que c'est une bonne façon pour conclure du côté de l'UNEF. Exodus Privacy, c'est une association qui fait des choses hyper utiles pour notre vie privée. Ce serait dommage de perdre ces projets. Donc il faut les garder en vie. Pour les garder en vie, vous avez besoin de personnes. Donc n'hésitez pas à contacter l'association. J'imagine qu'il y a une adresse de contact très simple.
contact@exodus-privacy.eu.org.
Voilà, donc c'est super simple, vous le retrouvez aussi sur le site. Vous écrivez, vous dites ces sujets m'intéressent, je veux apporter ma pierre, je sais faire ça et ça, ou alors je sais rien faire, dites-moi ce que je peux faire pour vous aider. C'est très 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 simple. Et côté de Drick, qu'est-ce que tu aimerais que nos éditrices auditeurs retiennent de notre échange ? Est-ce qu'il y a un dernier passage que tu souhaiterais faire passer ?
Oui, bah, je veux dire que c'est toujours possible de se poser les bonnes questions et d'essayer de changer des habitudes. Alors, faut y aller étape par étape. Hein. C'est comme passer au bio. Hein. On va pas d'un coup manger bio et local du jour au lendemain. Hein. C'est un peu compliqué. C'est parce que c'est vu comme une contrainte. Donc, faut le faire petit à petit. Pour rebondir sur la contribution, la première forme de contribution, c'est d'en parler tout simplement, d'essayer les applications libres, d'essayer Exodus, d'en parler autour de soi, et puis étape par étape on va y arriver. Si j'ai un seul conseil à donner, c'est déjà commencer par installer Exodus sur votre téléphone, et puis à utiliser un gestionnaire de mots de passe, parce que mine de rien c'est quand même le truc qui embête tout le monde, hein, les mots de passe, et ça reste une porte d'entrée assez facile sur votre vie privée. Donc utiliser un gestionnaire comme KeePass, Bitwarden ou ProtonPass, déjà ça sera une première étape plutôt cool.
Très bien ce conseil, je vais rajouter sur la page de référence les liens outils pour retrouver les pages qui parlent de ces gestionnaires de mots de passe. Moi-même j'utilise KeePass, je le trouve génial, et bien évidemment vous pouvez aussi lire la bande dessinée Datamania de Drick Guédin, parce que vous y trouvez aussi des tutoriels et des suggestions pour mieux protéger votre vie privée. Je souhaiterais remercier énormément mes deux personnes invitées d'aujourd'hui, donc Drick Guédin et l'UNEF de l'association Exodus Privacy. Merci d'avoir participé et je vous souhaite une bonne continuation avec tous vos projets.
Merci à toi de nous avoir invités.
Ben, nous allons maintenant faire une pause musicale. Et après la pause musicale, nous entendrons une nouvelle chronique de Marie-Odile Morandi sur le thème « Elles s'engagent en faveur du logiciel libre au sein de leur communauté ». Nous allons écouter « L'étoile danse » par Meidan et on se retrouve dans moins de 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Nous venons d'écouter l'étoile danse par Meidan, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY 3.0. J'ai choisi un morceau de piano exprès pour notre chroniqueuse Marie-Odile Morandi, car je sais qu'elle préfère ses sonorités. Et voilà le jingle.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Je suis Isabella Vanni de l'April. Nous allons passer au sujet suivant. Et comme je disais, nous allons poursuivre avec la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture ». Marie-Odile Morandi, membre du conseil d'administration de l'April et animatrice du groupe Transcription, partage ses choix, voire ses coups de cœur, qui mettent en valeur 2 ou 3 transcriptions dont elle recommande la lecture. Le thème de la chronique de ce jour, elle s'engage en faveur du logiciel libre au sein de leur communauté. La mise en voix est de Laure-Élise Deniel.
Bonjour à nos chères auditrices et auditeurs de cette chronique, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture. Le 10 juin dernier se sont déroulées à Lyon les rencontres professionnelles du logiciel libre. À cette occasion, l'April avait dépêché une envoyée spéciale, Julie Chaumard, qui a parcouru les allées de cet événement et interviewé sur leur stand quelques participantes et participants. Nous avons pu écouter ces interviews comme si nous y étions, nous dit Julie, lors de l'émission Libre à vous du 25 juin 2024. Parmi les personnes qui ont répondu aux questions de Julie, 2 femmes avaient aussi participé, chacune, à une émission Libre à vous en septembre 2020 et en décembre 2022. Vous pouvez réécouter ces émissions, lire leurs transcriptions, les liens sont sur la page des références de l'émission de ce jour. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'engagement de ces 2 femmes politiques en faveur du logiciel libre au sein de leur communauté. Claudine Chassagne, adjointe au maire de la ville de Saint-Martin-du-Riage, une commune de 5600 habitants dans le département de l'Isère, est élue depuis 2014, en charge, entre autres, du numérique, réélue en 2020, toujours en charge du numérique avec d'autres casquettes. Pour gérer les services de la commune, la mairie comporte à peu près 150 agents. Emeline Baume est vice-présidente de la métropole de Lyon. Son mandat porte sur l'économie, l'emploi, le commerce, le numérique et les communs publics sur un territoire qui compte 59 communes et à peu près 1,4 million d'habitants. À la métropole de Lyon, on compte 9600 agents, dont un service pour l'ensemble des 83 collèges du territoire. Dès 2014, Claudine Chassagne a tenu à mettre en place une politique de migration vers le logiciel libre, une priorité au logiciel libre et au format ouvert. Un certain nombre de projets ont été mis en place jusqu'à la migration totale vers la bureautique libre en fin de mandat, en 2020. La politique s'est alors plutôt tournée vers du numérique responsable et inclusif, avec le besoin d'accompagner les personnes en difficulté avec l'informatique. Dans le programme présenté par l'équipe à laquelle appartient Emeline Baume, la proposition d'aller vers les logiciels libres était présente. Dès juillet 2020, début de son mandat, s'est posée la question du renouvellement des licences Microsoft. En septembre 2021, une délibération a été votée en faveur du logiciel libre pour la transformation de l'environnement numérique de travail des agents de la métropole. Les maires des deux villes étaient tout à fait favorables, nous disent Claudine et Emeline, et convaincre les élus de l'équipe municipale semble avoir été relativement facile. À la métropole de Lyon, les directeurs des services qui se sont succédés ont soutenu le projet. À Saint-Martin-du-Riage, un premier technicien informatique, responsable des systèmes d'information, avait déjà mis en place des petits logiciels libres. Son successeur a vraiment joué le jeu, s'est investi et est devenu force de proposition au niveau technique alors qu'il n'y connaissait rien au départ. Le directeur des services a lui aussi soutenu le projet. Les raisons invoquées pour développer une politique en faveur des logiciels libres se ressemblent pour les deux entités territoriales. Il ne faut plus être tributaire du monopole exercé par les GAFAM, ne plus subir les contraintes exercées par ces acteurs économiques que sont Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft afin d'acquérir une indépendance technologique pour son système d'information, devenir maître de ses logiciels, sans oublier la protection des données de ses administrés, avec risque d'exploitation de celle-ci. D'autre part, les élus nous rappellent qu'il est assez gênant que la puissance publique paye aujourd'hui tant d'argent, principalement à Microsoft. Donc, un enjeu politique fort, d'indépendance technologique, voire des enjeux de souveraineté numérique. Avoir un système d'information avec des modules aptes à fonctionner ensemble, à communiquer entre eux, qui utilisent en quelque sorte un même langage, est aussi un critère du choix. On choisit donc des solutions interopérables, des formats ouverts dont les caractéristiques sont connues. Avec un logiciel libre, on est certain que le logiciel fait effectivement ce qu'il est censé faire. On est assuré qu'il n'y a pas de fonctionnalité malveillante cachée, d'autant plus à l'heure du passage massif vers le cloud, qui concerne aussi désormais les services publics dématérialisés, avec toutes les problématiques liées au droit extraterritorial américain. Le logiciel libre permet une logique de transparence, donc de confiance de la part des citoyens et des citoyennes. Le logiciel libre aide beaucoup, affirme Claudine Chassagne, pour la sobriété numérique, en allongeant la durée de vie des terminaux et en mettant en place des logiciels simples pour accompagner les utilisateurs. Microsoft, par exemple, porte une grosse responsabilité sur l'impact environnemental du numérique en tant que moteur de l'obsolescence des machines par l'obsolescence des systèmes d'exploitation. Une raison de plus de s'engager vers une sortie de ces situations afin de cheminer vers des pratiques sobres et d'utiliser, dans le bon sens, le bon outil numérique. L'aspect mutualisation de solutions logicielles est mis en avant. Il y a en France un peu plus de 36 000 communes qui ont les mêmes missions et qui vont, séparément, contractualiser avec leurs prestataires pour gérer leurs missions avec un impact économique et financier assez fort. L'ADULACT, l'association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et les collectivités territoriales, accompagne les collectivités dans leurs missions et pour cela héberge sur sa forge un espace collaboratif en ligne permettant à plusieurs organisations et individus de créer, puis de maintenir des logiciels, toutes les sources des applications OpenMeri, basées du logiciel libre, qui permettent de satisfaire les besoins de gestion d'une mairie et qui peuvent être mutualisées. Les communes peuvent aussi se regrouper pour financer le développement d'un logiciel libre particulier afin de répondre à certains besoins. Éviter d'avoir recours à des logiciels propriétaires empêche ainsi une sorte de privatisation du service public. Si les enjeux techniques sont clairs, des freins existent. Certes, on ne rachète plus de licences privatrices, il y a donc une économie, mais migrer vers le libre a un coût. Il ne faut pas le nier, d'autant que les collectivités sont très pressurisées financièrement et risquent de l'être de plus en plus dans les années à venir, nous dit Emeline Baum. La résistance de certains personnels à utiliser des solutions libres vient de leurs habitudes d'usage, de l'habitude des facilités offertes par les GAFAM, voire des réflexes dont il faut arriver à se défaire. Il faut aussi dépasser l'expression « le libre, c'est pour les geeks ». Désormais, beaucoup de vulgarisation a été faite, de nombreuses organisations proposent une aide au changement. C'est souvent la migration vers la bureautique libre, l'outil de chaque jour, qui est faite en premier, avec accompagnement des personnels à qui on propose des formations au logiciel libre inscrites au budget de la mairie pour couvrir les besoins de nouvelles compétences. Pour que la migration soit acceptée, il faut tout le temps former, accompagner la conduite du changement en répétant régulièrement l'argumentaire politique auprès des hommes et des femmes qui font le service public au quotidien. Bien expliquer les enjeux qui sont derrière ce choix. Ce n'est pas forcément évident à vivre, mais ce sont ces personnels qui garantissent l'efficacité des politiques publiques. C'est un investissement, certes, mais ces agents et agentes vont acquérir de nouvelles habitudes qui seront dupliquées dans leur foyer, dans leur environnement social et personnel. Nos deux élus pensent qu'il y a là une responsabilité à proposer d'autres voies, d'autres trajectoires dans la vie de chacun, pour participer à la souveraineté et à la protection de ces données. À cet égard, Étienne Gonu, qui menait l'une des émissions, nous rappelle que le logiciel libre n'est pas seulement un sujet réservé aux informaticiens et informaticiennes, mais qu'il concerne absolument chacun et chacune d'entre nous. Le sujet de la politique des achats, donc de la commande publique, est prégnant. Madame Baum et Madame Chassagne nous rappellent qu'il existe des solutions au moment de la définition des besoins dans les appels d'offres, pour mettre les logiciels libres en concurrence avec les logiciels propriétaires, disant qu'on veut se baser sur des formats ouverts ou qu'on veut pouvoir accéder au code source. Le choix d'un logiciel ayant été fait, on peut alors mettre en concurrence des prestataires pour en faire la maintenance, voire la faire en interne si les compétences existent, renforçant ainsi l'indépendance recherchée. Ce parti pris autour des logiciels libres permet de mieux et plus travailler les enjeux de souveraineté numérique, la mise en commun d'outils, la maîtrise de la dépense publique sur la durée et de répondre aux besoins des habitantes et habitants avec, entre autres, un outil numérique efficace dédié aux services publics. À l'April, nous qui défendons la priorité au logiciel libre, nous souhaiterions qu'une migration vers le logiciel libre et les formats ouverts soient engagés par toutes les communes, toutes les collectivités locales. Les conseils donnés par les deux personnes interviewées sont précieux. Le changement se fera correctement s'il repose sur le triptyque élu, direction générale des services et des ressources humaines et responsable des services informatiques. Il faut donc un engagement politique, par exemple avec inscription dans le programme au moment des élections, un accompagnement face aux réticences qui sont parfois prégnantes, puis la recherche d'une stratégie de mise en place du projet par le service technique. Les efforts consentis n'empêchent pas les élus de vivre dans la crainte que cette politique soit remise en cause. Elles savent qu'il faudra régulièrement réexpliquer l'argumentaire et les raisons de la démarche. La méthode d'action conseillée est celle dite des petits pas. Il faut agir progressivement, sur un temps long, en commençant autant que possible par des personnels volontaires et sur des thèmes pas trop compliqués. L'exemple de la messagerie est cité, afin de construire des solutions autant que possible durables dans le temps. Il ne faut pas hésiter à se faire aider par des organismes dont le métier est l'accompagnement à la conduite du changement dans l'utilisation de certains logiciels, mais aussi travailler avec d'autres collectivités voisines qui portent ces mêmes actions afin de mutualiser et de co-construire des solutions, ce que permet intrinsèquement le logiciel libre. La métropole de Lyon adhère à l'April parce que, nous dit Madame Baum, cela faisait sens, en particulier en regard du plaidoyer que porte notre association. La métropole soutient les rencontres professionnelles du logiciel libre qui permettent de prendre conscience de la réelle valeur économique des acteurs du libre qui peuvent répondre à des appels d'ordre d'acheteurs, dont la métropole, et qui sont tenus par le code de la commande publique. Madame Chassaigne a noté le peu de femmes présentes à ces rencontres. Des progrès restent à faire pour convaincre les filles qu'on peut faire des choses très intéressantes en informatique avec des logiciels libres si, dit-elle, les hommes cèdent un petit peu de leur place. Madame Baume insiste sur la nécessité d'accompagner la jeune génération dès la prise en main des outils numériques pour que la norme ne soit plus le logiciel privateur, mais devienne le logiciel libre. Un parcours très inspirant que celui de ces deux femmes, puisse-t-il servir de modèle à d'autres collectivités territoriales ?
Vous êtes de retour dans l'émission Libre à vous et c'était la chronique de Marie Dille, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture sur le thème « Elles s'engagent en faveur du logiciel libre au sein de leur communauté ». Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Cause commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 dans ses locaux à Paris, au 22 rue Bernard Dimé, dans le 18e arrondissement. Une réunion d'équipe ouverte au public avec apéro participatif à la clé, occasion de découvrir le studio, de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée rencontre aura lieu ce vendredi 4 octobre. La fête du libre revient samedi 12 et dimanche 3 octobre à l'espace Gérard Philippe à Iry-sur-Seine. J'en profite pour faire un appel, nous cherchons des bénévoles pour tenir le stand de l'April, donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous avez ne serait-ce qu'une demi-journée de libre. Une rencontre April aura lieu samedi 12 octobre à partir de 19h dans les locaux de l'April à Paris, dans le 14e arrondissement. Cette rencontre a lieu dans le cadre d'un week-end de réunion entre membres du conseil d'administration et de l'équipe salariée. Occasion donc pour les rencontrer, pour rencontrer d'un coup plusieurs personnes de l'équipe de l'April. Et je vous invite comme d'habitude à consulter l'agenda du libre, agendadulibre.org pour les autres événements en lien avec le logiciel libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Jean-Christophe Becquet, Audrey Guédin, Louis Neuf, Marie-Odile Morandi, Laurélise Daniel. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Julie Chomard. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Élodie Daniel Giraudon, Linguen, Julien Osman, bénévole à l'April, et Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Et merci aussi aux personnes qui découpent le podcast complet des émissions en podcast individuel par sujet, Quentin Gibault, bénévole à l'April, et mon collègue Frédéric Couchet. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles ainsi que sous le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire de retours pour nous indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Et vous pouvez également nous poser toutes questions, nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse bonjour@libreavoue.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sous le répondeur de la radio 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 8 octobre 2024 à 15h30. Notre sujet principal portera sur la médiation numérique et les libertés informatiques. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 8 octobre et d'ici là, portez-vous bien. Julie a baissé le volume du générique, l'émission est terminée, mais il y a sans doute des personnes qui écoutent jusqu'à la fin du générique. Eh bien, la première personne qui nous contactera à l'adresse bonjour@libreavoue.org gagnera un exemplaire de la BD Datamania dont nous avons parlé au cours de notre sujet principal. Je répète l'adresse de contact bonjour@libreavoue.org. Bonne fin de générique!
Cause commune, retour sur 93.1 à 21h et retrouvez nos programmes sur cause-commune.fm. programme de Cause Commune, causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune.
Comment faire pour devenir